On ne sait pas très bien quelle forme peut avoir l'esprit, ça n'a aucune importance dans l'esprit. Mais en tout cas, une chose certaine, c'est que notre esprit est pratiquement sans limite à partir du moment où il est en fusion avec l'esprit de Dieu. Et il nous permet d'être vraiment assis à la fois dans les lieux célestes et d'être en, tout en étant l'esprit de l'homme, Dieu l'a formé en dedans de lui, on y reviendra, c'est très important. Donc, normalement, quand on n'est pas converti, notre esprit est mort. Donc là, ce qui fonctionne en nous, d'ailleurs, Ecclésias dit, l'homme ne verrait qu'il est qu'une bête. L'homme sans Dieu, il est comme une bête, hein, avec quand même quelque chose en plus, parce que l'animal, il a une âme, il a un corps, mais il n'a pas d'esprit. L'homme, lui, a un esprit parce que Dieu est esprit, il a été formé à l'image de Dieu. Hein. Et donc, ce qui est formé à l'image de Dieu, c'est l'esprit de l'homme. D'accord ? Alors, mais Dieu dit aussi, il a une forme de musique, il parle de ses yeux, de ses mains, de ses, etc., etc. Vous voyez, il y a un corps aussi glorieux, si je veux dire. Bon. Donc, notre esprit est mort. Tant qu'on n'est pas né de nouveau. Ça veut dire qu'on est imperméable aux choses spirituelles de Dieu. On est coupé. Il y a un abîme. Mais il y en a un qui connaît le potentiel extraordinaire de l'esprit de l'homme. C'est Satan, et qui va tout faire pour pouvoir se servir de l'esprit de l'homme. Parce que lui, il a besoin de l'esprit de l'homme pour pouvoir rentrer et pour pouvoir utiliser l'homme à sa guise. D'accord. Donc dans les abominations, en réalité, bon, il y a quand même des choses qui montrent que l'homme a un esprit en plus de l'animal, c'est le fait qu'il parle, la créativité, enfin l'intuition, beaucoup de choses qui montrent qu'il y a quand même une connexion, une certaine connexion avec le monde spirituel. Mais à partir du moment où l'homme touche à la spiritualité, c'est-à-dire au monde spirituel du diable, et nous allons voir que ça démarre très 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 vite, qu'on en est entouré, il ouvre son esprit, normalement mort, il ouvre son esprit de manière qu'il puisse être utilisé par le diable. Pourquoi ? Pour la destruction. Sa propre destruction, la destruction de sa propre famille, mais la destruction du monde. Parce que c'est quand même le but de Satan. Amen. Alors, on va donc parler de ce qu'est l'occultisme. Que nous comprenions qu'aujourd'hui, les gens ne savent même plus que ce qui touche les met sous des malédictions terribles. Alors, on va déjà parler un petit peu des domaines que ça touche, l'occultisme. Premièrement, ça touche la matière. Parce que le diable aime beaucoup avoir des choses à laquelle s'accrocher. Donc, il y a de la matière, on en a eu un témoignage tout à l'heure, il y a de la matière qui peut être chargée spirituellement. Les esprits aiment s'accrocher à la matière. D'accord ? Alors c'est pour ça que vous avez plein d'objets qui soi-disant portent bonheur, talismans, des trucs, des chargés de trucs. En réalité, ils sont chargés d'esprit. Dieu, lui, est esprit. C'est pour ça qu'il nous demande de l'aider, de l'adorer en esprit, en vérité. Pas à travers de la matière. D'accord ? Quelle qu'elle soit. Dieu est esprit. Mais Satan, lui, il est un peu plus limité et il a besoin de la matière. C'est pour ça que dès qu'on touche à de la matière pour en faire des trucs spirituels, c'est une abomination devant Dieu. Parce qu'en réalité, c'est des démons qui s'accrochent à la matière. Dieu n'a pas besoin de la matière. La matière, lui, est soumise. C'est lui qui l'a créée. Alors, donc, vous voyez notamment en Ésaïe 46, on vous parle des statues qui ne parlent pas, etc., des gens. Le deuxième commandement de Dieu, qui, je vous le rappelle, a été supprimé dans l'Église catholique pendant 15 siècles, et remplacé par un autre, qui est « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni d'image tout court, pour te prosterner devant elle, pour leur parler, etc. » a été supprimé de l'Église catholique, et je viens de m'apercevoir avec surprise qu'il était toujours supprimé. Il a été transformé, c'est plus les 10 commandements qu'il y avait jusqu'en 1950, ils ont remis 10 commandements en disant qu'ils remettaient les commandements, et c'est toujours pas les commandements de Dieu, il n'y a toujours pas le deuxième commandement, il est toujours remplacé par un autre. Je l'ai noté sur mon blog juste avant de partir, donc je ne l'ai plus en tête. Mais le deuxième commandement est toujours absent. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de support quelconque, enfin pour te prosterner devant, etc. C'est-à-dire attribuer à de la matière une puissance quelconque. Ok ? Une puissance surnaturelle, spirituelle. Bon. Donc il y a la matière. C'est déjà un des trucs que Satan va utiliser pour nous perdre. Ça va être de nous faire croire que la matière peut receler une spiritualité en elle-même. Elle le peut, mais uniquement dans le négatif. Uniquement dans le négatif. Car c'est des démons qui vont s'attacher autour. Comme le témoignage de notre sœur tout à l'heure, qui parlait du fait que la petite statuette qui avait l'air de rien du tout, elle était tellement bien chargée que la vie de son fils a risqué d'en être complètement fichue en l'air. Hein ? Pas rien du tout. Bon. La parole, mon Dieu. La parole. Dieu sait qu'on nous parle de la parole. La parole, Jésus est la parole de Dieu. Amen. Bon. Dieu dit et la chose existe, nous dit le psaume 115. Dieu dit et la chose existe. Il y a une puissance dans la parole. Mais même la parole de l'homme, Satan nous fait tout pour nous faire croire que la parole est sans puissance. Vous avez des proverbes du style « Oh, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. » Donc vous pouvez dire n'importe quoi. Mais la parole de Dieu dit que même ce que tu as dit dans le secret de ta chambre, ça va être publié sur les doigts. La parole de Dieu dit, Proverbe 18-21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jacques dit, bénissez et ne maudissez pas, parce que ça va avoir un impact. Quand Balaam a voulu maudire, Dieu n'a pas permis qu'il maudisse. Il l'a contraint à bénir, parce que les paroles auraient eu une portée. Amen. Donc nos paroles ont une portée beaucoup plus grande que celle qu'on imagine. Une langue douce peut briser des os, dit la parole. Proverbe 25-15. Proverbe 15-4. Une langue perverse brise l'âme. Une parole peut briser une âme. On en a parlé hier. Le fait qu'une parole pouvait nous avoir brisé l'âme. Vraiment que Dieu est venu guérir les cœurs brisés. Donc, ça va être un des grands psaume 33-6-9. Dieu dit la chose existe. Moi, j'aime beaucoup ce truc, cette parole. Alors, donc, vous en avez partout, mais il y a aussi la louange dans la parole. Il y a tous les degrés de dans la parole, y compris la louange, une grande puissance dans la louange. Hein. Ça peut résonner, ça remonte, ça monte jusqu'au ciel et ça. Ça a un impact quand même extraordinaire. Bon, prière et compagnie. Donc, nos paroles, on peut proférer des choses qui vont détruire des âmes, même quelquefois sans le vouloir. Il y a des parents qui disent des paroles sur leurs enfants qui vont sonner comme des malédictions. Moi, ma mère, elle me disait tout le temps, ma pauvre fille, tu te marieras jamais. C'était juste pour me dire que j'avais arrangé ma chambre. Mais me mettait des malédictions dessus, il a fait que je brise. Bon, depuis, le Seigneur ne m'a pas donné de mari, mais je pense qu'il a pitié du mari. C'est peu tard. Mais n'empêche que ça a ravagé ma vie. On rigole, mais n'empêche que ce sont des paroles qui sont très lourdes. Oh, mais bon, pauvre fils, tu ne seras jamais bon à rien. Bing, boum. Puissance de ces mots. Le diable nous fait croire que ça n'a pas de portée. Ça a une portée terrible. Les enfants, quand ils l'ont entendu 10 fois, en plus, de toute façon, leur cœur est brisé. Et de toute façon, ils croient. Parce que ça vient d'une autorité. Et c'est l'image qu'ils vont avoir d'eux-mêmes. Et comme la parole de Dieu dit, ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Et bien, en général, on est bon à rien toute sa vie. Sauf bien sûr, quand Dieu vient, il arrive et brise ses malédictions. On aura l'occasion de parler du brisement des malédictions ancestrales, entre autres. Mais il y a, entre autres, il y a ces malédictions que quelquefois nous avons prononcées sur nous-mêmes. Qui d'entre nous n'a pas dit « Je ne vois rien, je suis bois rien, je suis zéro. » Vous ne l'avez pas dit ? Moi, je me le dis tous les matins. Non. Mais bon, le Seigneur me reprend de temps en temps, disant « Non, tu es une créature merveilleuse. » Alléluia. Non mais en fait, les mots ont une portée qu'on mesure mal, mais que Satan connaît très bien. Satan fait tout pour pouvoir utiliser, je vais d'ailleurs en profiter pour le dire tout de suite, une des choses sur lesquelles nous avons le souvent à faire des délivrances, c'est les langues des gens. Très souvent, nous voyons les langues sortir longues comme ça, ou un petit peu plus courtes, mais moi j'en ai vu, vous savez, franchement impressionnant. Il y a des serpents dedans. C'est un des endroits où les serpents, les gens qui maudissent, ou qui ont des héritages de malédiction, d'incantation, de trucs, ils ont des serpents dans la langue, dans la gorge, dans les cordes vocales. C'est impressionnant. Et je peux vous dire qu'on le voit bien dans les c'est pas du tout rare dans les délivrances qu'on voit des langues sortir comme ça. Hein. C'est impressionnant. Et c'est toujours la première délivrance par laquelle je commence, parce que tant qu'on n'a pas sorti, tous les autres, ça bloque tous les autres démons. Parce qu'ils remplissent la bouche. Ils servent de gardien à la porte, vous savez, pour qu'ils sortent pas, parce que la plupart des démons sortent par la gorge. On aura le temps de parler des lieux des démons, mais je ne peux pas tout vous dire d'un coup. Parce que... Les gestes. Dans la parole, vous savez, Satan imite toujours Dieu. On le sait, on l'a dit, c'est le singe de Dieu. Donc, il sait la puissance créatrice. Je voudrais quand même revenir à Hébreux 11, 3, qui est, si vous voulez, Satan connaît très très bien la parole, et puis il a vu la création de Dieu. Il a vu Dieu parler, il a vu Dieu dit, et la lumière fut. Dieu dit, et l'univers a commencé à se déployer. Dieu dit, et puis il y a eu des milliards d'espèces. Il a vu, il connaît la puissance de la parole. Et là, l'homme a la parole, mais les démons ne l'ont pas. Donc ils ont besoin de la langue des hommes. Amen. Il faut que vous le compreniez bien. Ils ont besoin de nos corps, et en particulier de nos langues. Je connais très bien la puissance de la langue. Alors on va lire Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, parole de Dieu étant Jésus, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans le visible a d'abord été créé dans l'invisible. C'est pour ça que quand on prie, on va créer quelque chose dans l'invisible qui va après se concrétiser dans le visible. Et dans l'occultisme, ils le savent très très bien. C'est pour ça que dans le monde de l'occultisme, de la sorcellerie, etc., vous avez beaucoup d'incantations, de malédictions, d'utilisation de certaines paroles, de mantras dans toute la sorcellerie orientale, etc. On va vous faire des appels, vous prononcer des mots pour vous lier, pour appeler certains esprits. D'accord ? Et les démons vont se servir des langues des gens. Hein ? Et Jean dit, la langue, c'est un petit membre, mais c'est un feu qui peut embraser une forêt. Alors donc, tout ce que nous voyons dans le visible, et je vous assure que les sorciers sont plus au courant que les chrétiens, que si on veut voir quelque chose dans le visible, il faut d'abord travailler dans l'invisible. Eux travaillent tous dans l'invisible. Pour que ça ait un impact dans l'invisible. Et nous, la parole de Dieu nous exhorte à louer le Seigneur, à prier le Seigneur, à adorer le Seigneur. Travailler dans l'invisible. On ne va pas le voir. Mais il nous est dit, tout ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre foi, c'est quelque chose d'invisible. Mais parce qu'on croit que cela va s'accomplir, parce qu'on croit que la parole que l'on a faite est créatrice et qu'elle est conforme à la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, on fait de la magie. Et nous aurons l'occasion ce soir de montrer comment le diable a même tenté Jésus par la magie. Amen. Il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a montré que c'était de la magie et de la franc-maçonnerie. On en parlera ce soir. Et donc, la langue est quelque chose d'extrêmement important. C'est le monde de l'iniquité, nous dit la parole. Le monde de l'injustice. Le monde du péché. Ça commence fort par la langue. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, a dit Jésus. Ça veut dire que ce qui est au fond de notre cœur, ça va sortir d'une manière ou d'une autre sur notre bouche. Donc, c'est pour ça qu'il faut veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, dit un proverbe. Ne nous donnez pas la référence, je ne sais plus. Mais je le connais par cœur. Donc, ce qui est dans le fond de nos cœurs, dans le fond de nos pensées, va sortir sur nos lèvres. Si vous avez dans votre cœur la louange, l'amour et le reste, ce qui va sortir, c'est les paroles d'amour. Vous aurez beau faire tous les efforts que vous avez, si dans votre cœur, vous avez de l'amertume, ce qui sortira, ce sera des paroles amères, des critiques, des blasphèmes et des malédictions. Amen. De la même bouche, déjà, sortent la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Alors ne croyez pas qu'on marche par l'Esprit de Dieu quand on profère des malédictions. Hein. Amen. Bon, donc il y a aussi la gestuelle. Alors, dans la parole de Dieu, vous avez aussi des gestes prophétiques. Il y en a beaucoup. Notamment dans Ézéchiel, vous verrez tous les gestes prophétiques que le Seigneur a fait faire à Ézéchiel. Tu vas te mettre une ceinture comme ci, tu vas te coucher sur ton côté. Il y a des gestes prophétiques. Il y a dans le monde occulte, bien entendu, vous avez aussi une gestuelle spirituelle qui va attirer des esprits. Notamment des danses, des rythmes. Malheureusement, ils rentrent aussi dans les églises, qui ne sont pas du tout de Dieu, qui sont des véritables appels à des esprits qui ne sont pas de Dieu. Il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Vous avez des mises en transe. Toute la base de la sorcellerie, c'est la première sorcellerie, c'est du chamanisme, c'est de la mise en transe pour faire le vide de l'esprit et recevoir des esprits hautes qui vont vous donner les moyens de faire de la divination, des choses comme ça. Et vous avez actuellement dans les églises, il y a des églises qui vont faire le vide de l'esprit. Quasiment des mises en transe. Alors que la parole de Dieu dit « Soyez remplis ». En fait, c'est pas « Faites faire le vide ». Priez sans cesse, ça ne veut pas dire « Faites le vide ». D'accord ? Nous avons besoin de bien lire la parole de Dieu pour voir que même dans ce qu'on nous fait faire dans les églises aujourd'hui, dans certains séminaires, c'est du New Age. Et ce n'est absolument pas biblique. Et les gens le font de bonne foi, et ceux qui le font faire, le font de bonne foi. Je ne citerai pas son nom, mais je connais quelqu'un qui actuellement, pour faire des soins de la relation d'aide, fait faire aux gens du rebirth. Rebirth, ça veut dire nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il fait revenir les gens dans le ventre de leur mère. Pour revivre, soi-disant, tous les stress qu'ils ont vécu dans leur ventre. Mais moi, j'ai appris à faire ça quand j'étais complètement dans l'occultisme et dans le New Age. Et il croit que c'est chrétien. Et il n'y a pas longtemps, j'étais un pasteur qui m'a dit, moi, quand j'ai appris qu'il faisait ça, ben, je me suis souvenu de Nicodème qui posait la question, est-ce que je dois revenir dans le ventre de ma mère? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Non, vous devez naître d'eau et d'esprit. D'accord? Il ne s'agit pas de revenir dans le ventre de sa mère. Et il y a des trucs comme ça, l'Église est en train d'emprunter petit à petit au New Age, plein de choses, en pensant que c'est chrétien, comme elle emprunte plein de choses à l'humanisme, en pensant que c'est de l'amour, alors que ça n'est absolument pas biblique. Amen. Alors donc, les gestuels, oui, alors la plupart des sorcelleries sont accompagnées de mise en transe, que ce soit le chamanisme, le vaudou, les trucs, etc., de mise en transe, de rythme, de trucs, pour littéralement, justement, que les gens sortent en esprit. Ça, on y reviendra dans le cadre de la sorcellerie, et pour qu'il y ait le vide de l'esprit, et pour permettre à des esprits d'entrer. Dans le yoga, tout bête, on demande aux gens de faire le vide de l'esprit, mais il n'y a pas de vide. La nature a horreur du vide, nous dit. Hein. Il n'y a pas de vide, ça fait rentrer des esprits. Pendant que l'esprit est absent, eh bien, pendant ça, là, il y a d'autres esprits qui rentrent. Je vous en parlerai dans Matthieu 12:43, vous verrez qu'on pourrait le lire tout à fait autrement. Les dessins. Cercles, étoiles. Il y a très utilisés, notamment dans la franc-maçonnerie, mais un peu partout. Et un peu partout. Les damiers que vous voyez dans beaucoup d'endroits, carreau noir, carreau blanc, carreau noir, carreau blanc, carreau noir, carreau blanc, il faut que vous sachiez que c'est complètement d'origine occulte, c'est pour montrer qu'il y a équilibre entre le bien et le mal. Puisque tout le système de la franc-maçonnerie, c'est je peux équilibrer, et du satanisme, je peux équilibrer le blanc avec le noir. vous pouvez le signe du yin et du yang, équilibre entre le bien et le mal. Vous comment ça s'appelle là, les petits trucs pour allumer les télévisions et tout ça?
Les télécommandes.
Les télécommandes. Regardez, vous avez tous le signe du yin et du yang dedans. Vous ne connaissez pas le signe du yin et du yang? Vous avez un rond blanc comme ça avec un point noir et un rond noir avec un point blanc. Inversé, le tout dans un cercle. Pour montrer qu'il y a équilibre entre le bien et le mal. Et dans tous les trucs d'occultisme, ne croyez pas que les satanistes ou les francs-maçons pensent qu'ils sont des vilains méchants. Ils pensent qu'ils peuvent rattraper les mauvaises choses de leur vie par les bonnes choses de leur vie. Cherchez l'erreur, parce que dans la Bible, il est dit qu'on ne peut rien faire de bon sans Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nos bonnes actions sont encore des mauvaises œuvres, ou des œuvres vaines selon Dieu. Donc ça, Satan, il est malin, hein. Il ne va pas dire aux gens, vous allez être mauvais, vous allez voir comme c'est bon d'être mauvais. Il fait croire aux gens qu'ils sont bons. Vous ne verrez jamais autant de bonnes œuvres faites que par les satanistes et les francs-maçons. C'est la vérité. Donc les dessins, les cercles, les étoiles, qui est-ce qui m'a parlé du fait qu'il y avait une petite étoile à cinq branches ici? Ah, voilà, vous l'avez. J'aurai l'occasion de vous parler de la franc-maçonnerie cette semaine, j'espère. Et tu as les trucs. Et on verra immédiatement comment le bouc Baphomet, qui est une figure de Satan, se cache derrière une étoile à cinq branches qu'on voit absolument partout. Sauf qu'elle est toujours entourée d'un cercle qui signale l'enfermement. L'anneau, la parole, représente l'alliance. Mais les cercles, il y a beaucoup d'anneaux qui sont en fait des alliances avec Satan. Et les cercles. Il y a des églises, on dit, mettez-vous tous en cercle. Ça peut ne pas être mauvais. Mais attention, vous pouvez être. Ça peut être fait par des gens qui ne sont pas clairs. Parce qu'il y a un signe d'alliance dans le fait de ça. Et dans les trucs écuméniques, moi j'ai une amie, je vais vous raconter ça. Je ne sais pas encore, on va finir à 4h du matin, c'est pas grave. J'ai une amie pasteur qui va dans une réunion écuménique. Et elle est conviée, elle était très flattée, elle est conviée à être parmi tous les grands leaders qui étaient là, qui se réunissaient dans une pièce. Alors les grands leaders, il y avait des prêtres cathos, il y avait un évêque, il y avait un certain nombre de personnes dont je ne vous citerai pas le nom parce qu'il y en a un certain nombre d'entre nous qui les connaissons. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, mettez-vous tous en rond, on se tient tous la main, signe d'unité. Tout le monde le fait. Et elle a voulu se mettre dans le cercle, elle a été projetée au sol, au milieu, et elle vient me raconter en disant, mais tu peux pas savoir ce que j'étais humiliée, mais humiliée, j'arrivais pas à me relever, j'étais au milieu, je n'ai jamais pu rentrer dans leur cercle. Je n'ai pas compris que c'est Dieu qui t'a protégée. Parce que tu faisais une alliance avec des gens qui prient un faux Dieu, et qui prient des Marie et la Reine du Ciel. Et que le fait de rentrer dans ce cercle, tu donnais ton accord. Vous savez, quelquefois on nous dit de faire des choses comme ça. Je veux dire, donner une poignée de fraternelle à un catholique, l'embrasser, mais prier pour lui, moi je suis entièrement d'accord. Mais faire une alliance en disant qu'on prie le même Dieu quand je sais qu'on ne prie pas le même Dieu, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ben, eux, ils veulent mélanger Christ et Bélial. Bélial peut porter une petite couronne et avoir une tête de madone, ça ne change rien. Hein. Bon, on aura le temps d'en parler cet après-midi. S'il y a des catholiques parmi vous, ça va chauffer cette semaine. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans tous les séminaires que je fais comme ça, il y en a toujours. Et ma plus grande joie, c'est qu'en général, à la fin, d'ailleurs, la dernière fois qu'on était à Cannes, elle est là, Laurence? Le dernier jour, on a retrouvé sous les sièges des chapelets, des médailles de vierge. Les gens l'avaient bazardé. Ils avaient décidé de changer. On avait des couples qui étaient dans l'écuménisme, qui sont des gens importants, qui faisaient des très grandes réunions. À la fin de ce séminaire, ils ont dit, on a compris plus jamais. Ils sont très connus dans la région. Alléluia. Et je peux vous dire que ça voulait dire qu'on avait gagné, on avait sauvé des frères. Amen. Alléluia. C'est tout. On est là pour sauver. On n'est pas là pour être tolérant. On est là pour sauver les gens. Amen. Alors, les supports qui vont être utilisés dans l'occultisme très facilement. Bien sûr, on connaît les poupées, poupées vaudou, poupées de magie noire, les choses comme ça. Mais les photos, hein, les gens qui vont complètement chez les médiums, et toujours on vous demande des supports, d'amener des photos. Le nombre de gens qui sont liés, qui ont oublié qu'ils avaient amené un jour une photo chez une voyante, un truc qui s'étonne d'avoir des problèmes pas possibles derrière. Ils ont donné, et même les supports. Moi, j'étais victime de magie noire, on m'avait fauché des biens personnels, des vêtements, etc. Pour pouvoir faire de la magie noire contre moi, j'ai failli en mourir. Mais j'ignorais bien. Dieu était bon avec moi, j'ai failli mourir à l'époque. Hein. Je vous parle de 40 ans en arrière. Hein. Dieu était bon parce qu'il m'a sauvé quand même. Alléluia. Il avait des plans pour moi. Alléluia. Alors les dessins, des représentations, etc. Des statues, des icônes, donc tous ces supports. Et puis bien sûr, tous les pactes. Les pactes qui sont faits et qui sont en général associés. Pour qu'un pacte soit légitime, il faut qu'il soit associé à du sang. Pacte de sang. Des enfants qui bêtement rechangent leur sang en disant un pacte, on fait un pacte à la vie, à la mort pour rigoler ensemble. Alors, si vous saviez les liens d'âme que ça crée. Et souvent les gens l'ont oublié. Ah, mais tu sais, un jour en rigolant, j'ai donné mon cœur à Satan quand j'avais 13 ans. Il y a quelques années, dans Halloween, il y avait une marque, j'ai oublié hein, laquelle, une marque de biscuits ou de bonbons qui, quand les enfants dépliaient, il y avait dedans de quoi signer un pacte avec Satan. Pour rigoler pour Halloween, ils avaient fait ça. Tous les enfants étaient liés. Parce que eux peuvent le faire comme un jeu, mais pour Satan, ce n'est pas un jeu. Ça fonctionne. Bon, c'est simplement pour vous parler des moyens que Satan utilise. Alors maintenant, on va parler pourquoi l'occultisme, d'où ça vient. D'où ça vient et comment Satan cherche à perdre l'homme par ça et comment on tombe tellement facilement que même une grande partie de la chrétienté est tombée dedans. Et qu'aujourd'hui, une très grande partie de la chrétienté, toute appellation confondue, tombe dans des formes d'occultisme sans même s'en apercevoir. Donc nous devons être vigilants. On est d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la base même de l'occultisme? La base même de l'occultisme, on ne va pas prendre Genèse 3. L'occultisme a commencé à l'instant même où l'homme a chuté et a tout perdu au profit de Satan. Vous vous souvenez que Satan, dans le désert, a dit à Jésus, « Je te donnerai tous les royaumes de ce monde avec toute leur gloire, car ils m'ont été donnés. » Il n'était pas en train de mentir. Ils ont été donnés par qui? Parce que Genèse 1 montre que Dieu a donné la terre à l'homme avec tout ce qu'elle contenait, avec le soin de la gérer. Je te donne la terre, je te donne tout arbre, je te donne toute herbe, je te donne tout. Je te donne. Et n'oubliez pas que Noé, Adam, avant la chute, il n'a qu'à appeler les animaux, ils arrivent tous, ils obéissent tous, et ils n'ont pas la moindre peur de l'homme. C'est après, à partir de Genèse 11, que l'animal est terrorisé par l'homme. Vous savez qu'avant Genèse 9, l'homme n'a jamais été mangé de viande. C'est après qu'il est devenu carnivore. D'accord? Alors, Genèse 3. Je passe sur la chute parce qu'on y reviendra. Vous verrez que là sont les racines de la sorcellerie. Mais je vais partir à partir de la chute. À partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce qu'ils étaient aveugles avant? Non. Alors on va voir. Quels sont ces yeux qui sont verts? Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ah, on connaît bien ce passage. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin le soir, vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent au lointain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les voilà qui vivaient en communion parfaite avec Dieu. Maintenant, ils ont péché. Ils se cachent de Dieu. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» comme s'il ne le savait pas. Je vous ai parlé du fait que quand Dieu pose une question, c'est toujours pour donner à l'homme la possibilité de répondre par la vérité et de se repentir, ou bien de répondre par un mensonge. Alors, que répond Adam ? J'ai entendu ta voix dans le jardin. D'abord, c'est pas vrai, il n'est plus dans le jardin. J'ai eu peur. Mais bon, attendez. Jamais la peur n'a existé. C'est un mot clé pour expliquer tout l'occultisme. J'ai eu peur. Voilà un sentiment qui n'avait jamais existé auparavant, qui va rentrer. Et il a bien raison d'avoir peur. Le monde entier est tenu par la peur. Le monde entier fuit la peur. Et la peur ne cesse d'augmenter. Et il est même écrit en Luc 21 que les nations vont mourir, les peuples vont mourir de terreur au bruit de la mer et les flots. C'est-à-dire que la peur ne cesse de croître dans le monde, au point où à un moment donné, les gens vont mourir de terreur. Ça, c'est le résultat du péché de l'homme. Parce que je suis nu, la honte est rentrée dans le jardin. Il dit, je suis nu. Pourtant, il a des branches de figuier à ce moment-là-dessus. Il y a une autre nudité. C'est la nudité spirituelle. Il a perdu l'onction qui l'entourait, qui le relie à Dieu, parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en lui. Il est coupé. Donc il est dans une nudité spirituelle. Il n'a plus autour de lui la muraille de feu qui le protégeait de tout. Il n'est plus enveloppé de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'on est, quand on reçoit une nouvelle naissance, on est enveloppé de Christ. On est caché en Christ. Amen. Et je me suis caché. Occulte, ça veut dire caché. Alors, donc, voilà la base même de l'occultisme. Comprenons bien ce qui se produit. Satan, c'est le roi du commerce. D'ailleurs, quand on lit Ézéchiel 28, le roi de Tyr, qui est une figure de Satan, on voit qu'il trouvait le moyen de faire du commerce même dans le ciel. Il faut quand même le faire. Tout était gratuit, il trouvait le moyen de faire du commerce. Satan, c'est vraiment le roi du commerce. Il pique tout gratuitement à l'homme. Il lui pique la terre avec tout ce qu'elle contient. Il lui pique l'or et l'argent que Dieu a donné à l'homme. Il lui pique le pétrole, il lui pique tout, tout. Hein? Le monde entier est sous la puissance du malin. Et maintenant, comme il a dominé sur la terre, et plus l'homme fait des péchés, plus on lui donne de pouvoir, Satan crée la peur, la pénurie, il crée des trucs pour pouvoir proposer à l'homme de lui revendre très cher ce qui lui manque. C'est pas le roi du commerce, ça ? Je te pique tout gratuitement, je te revends très cher. On ne peut pas faire meilleur commerçant que ça, hein ? Il y a des commerçants ici ? Vous venez, vous prenez tout ce qu'il y a dans ma maison avec, et après, vous me proposez de tout me revendre très cher. Là, je dis que vous êtes vraiment une bonne commerçante. Et le pire, c'est que ça marche. Parce qu'il va jouer sur la peur, sur la pénurie, et on va voir sur toutes les peurs sur lesquelles il va jouer. Parce que l'homme, face à la peur, il va toujours avoir deux solutions. Soit la solution de lui, soit la solution du diable. Sauf que le diable fait toujours passer ses solutions pour des solutions divines. Et il va mettre une confusion absolument totale, y compris chez les chrétiens. Amen. D'abord, parlons du prix, parce qu'il est important de parler du prix. Le prix, il est inscrit dans la Bible. Je veux dire que quand on va voir des agents du diable, on paye du prix en argent. On va voir un médium, on va voir un guérisseur, on paye des prix en argent et quelquefois très cher. Ça, c'est rien. Parce que le vrai prix qui est inscrit dans la Bible, il est inscrit à 4 prises. C'est inscrit dans les 10 commandements. Dieu punit jusqu'à 4 générations, 3 ou 4 générations, de ceux qui le haïssent. Quand on fait un pacte avec le diable, on lui donne les moyens légaux, bibliques, d'amener la mort, la destruction, l'infirmité, les choses, et sur 3 ou 4 générations, et ça peut aller jusqu'à 10 générations, et quelquefois ça va jusqu'à l'extermination de familles entières, de pays entiers. Il y a des pays qui ont été éradiqués de la carte à cause de la sorcellerie et de l'occultisme. Donc nous devenons des complices de Satan. Peu importe que nous le sachions ou pas, ça ne change rien aux yeux de Dieu. Ce sont des abominations parce que nous avons ouvert vraiment à Satan des moyens de destruction. Amen. Alors, donc Satan, lui, il va jouer sur tout ce que l'homme a perdu. Et j'ai dit la première chose qu'il a perdu, c'est la paix. Et regardez tout de suite la première chose que Jésus a dite, c'est: venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos de vos âmes. Voici, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est une autre paix, c'est une paix qui vient du ciel. C'est la paix de la réconciliation avec le Seigneur. Le monde ne donne que des paix illusoires. D'ailleurs, la Bible se termine, enfin par la Bible, mais Jésus avertit que la fin des temps, ce serait quand tout le monde criera paix, 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 c'est alors que ce sera la catastrophe la plus totale. Bon. La paix du monde n'est jamais une vraie paix, c'est une paix, c'est un répit en général, et c'est un répit qui en général est suivi de catastrophes. Donc c'est une paix illusoire, et en réalité c'est la plupart du temps c'est de la fuite. Genre, de plus le monde a peur, plus les gens font de la fuite. Fuite dans les vacances, fuite dans les sports, fuite dans la télé, fuite dans tous les trucs, les écrans de toutes sortes, le machin. Maintenant on cache les morts, on ne veut même plus en entendre parler. Fuite. L'homme fuit la réalité, on fuit l'âge, on fuit tout le monde, on fuit. La fuite ne fait qu'augmenter. Et les moyens de fuite ne font qu'augmenter. Ça, c'est pas la paix. D'accord? Alors donc, Satan, non seulement il va créer la peur et rentrer, parce que l'homme a tout perdu, il a été coupé de Dieu, qu'il a reçu des condamnations qui sont arrivées dans le monde, qui marchent toujours, condamnation de la mort qui est rentrée dans le monde, condamnation de la famine. Plus, vous savez, on en reparlera dans les malédictions, mais plus l'homme est en désobéissance, plus il y a des catastrophes, de famine, de trucs, etc. Et immédiatement, Satan va arriver avec ses propositions pour enfoncer un peu plus l'homme. Alors on va aller voir les propositions de Satan. Et nous allons voir que ça commence très bas et que ça s'est infiltré très facilement dans l'Église aussi. Et comprenons bien ce que c'est. Parce qu'il y a toujours, face aux problèmes générés par le péché de l'homme, dont la peur, il y a la solution de Dieu. Et en face, il y a l'autre solution du diable. Et je ne sais pas quelle proportion, mais probablement 9999 personnes sur 10 000 choisissent la solution du diable. D'accord? Donc l'homme a peur. Peur. Peur pas déjà parce qu'il se sent sans protection. Coupé de toute protection. Il a perdu la protection de Dieu. Qu'est-ce que Satan propose tout de suite? Ça commence à la superstition. Porte-bonheur, amulette, chiffre porte-bonheur, des pierres de protection, les fétiches, les trucs, les statues, les fers à cheval, les machins, enfin toute la superstition qui est autour de nous, et ça monte jusqu'à la sorcellerie la plus totale. D'accord? Donc il n'y a pas de limite. Et le monde entier est là-dessous. Et aussi loin qu'on remonte dans les formes qu'on puisse se retrouver dans des fouilles, des trucs, on va retrouver des traces de superstition. Donc tout de suite, Satan a proposé à l'homme: ah ben attends, tu as peur, moi je vais te donner de quoi être protégé des intempéries. Vous n'entendez pas un joueur de foot qui n'a pas son truc fétiche, son ballon fétiche, son t-shirt fétiche, son machin fétiche. Et puis vous n'entendez pas un joueur à la télévision dire « Ah ben moi j'ai mon chiffre porte-bonheur tant ». Les gens sont imprégnés, d'accord ? Depuis toujours. Ça, c'est donc la première des choses. Et dans le catholicisme, on n'en parle pas. L'eau bénite, chacun ramène son petit flacon d'eau bénite, des petites photos, des petites images, des statues de vierges pour protéger, on va les mettre dans les fondations des maisons, on va mettre des trucs comme ça, tout, même il y en a qui mettent des versets bibliques, on fait dans la fondation de la maison, ça devient une idole, attention. Parce que celui qui protège, c'est pas le bout de papier sur lequel il y a le verset biblique, c'est le Dieu de la Bible. Amen. Moi, je connais même des chrétiens évangéliques qui disent, oh, moi j'ai entendu, je vous dis ça, vous pouvez l'avoir sous le même. Oh, moi, je vais au tribunal, mais je me suis prémuni, je me suis mis une Bible dans ma poche. Je lui dis, tu ferais mieux de te mettre le Dieu de la Bible dans le cœur. Ça protège mieux. Satan consiste toujours, essaye de faire déporter la protection qui ne vient que de Dieu seul sur des objets et même éventuellement des objets qui représentent la divinité. C'est pour ça que c'est une telle abomination aux yeux de Dieu. C'est un... Le Dieu, le ce qui est issu des cieux n'est pas vu contenir, on va le réduire à des petites choses comme ça. C'est pas Dieu. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se met dedans ? Immédiatement, un jour, j'étais jeune chrétienne, j'écris mon premier livre, je me retrouve à Reims, et il y avait un salon du livre, hein. Bon, donc je vais au salon du livre, où j'étais invité, et puis j'avais tellement soif d'aller prier le Seigneur, je vais dans la cathédrale pour aller prier le Seigneur. On peut trouver Dieu partout, y compris dans les cathédrales. Donc je vais prier le Seigneur. Et puis en sortant, il y avait juste en face de la grande porte d'entrée, il y avait une statue de Marie qui était là. Et puis, il y avait plein de vieilles femmes qui étaient là en train de prier devant. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Et j'ai vu derrière la statue, autour de la statue, j'ai vu un grouillement de démons. C'est-à-dire que toutes ces prières, elles chargeaient, et elles amenaient chaque fois des démons, de plus en plus de démons, simplement parce qu'elles s'adressaient à une statue de pierre, au lieu de s'adresser en esprit et en vérité au Dieu vivant. Alléluia. Les objets, on les charge. Vous avez des gens qui prennent une photo d'un mort et en parlant à la photo du mort comme s'il était vivant, ils vont charger la photo. Moi, je connais, tu allais dans des maisons, je dis, mais cette photo t'a parlé de mort, on le sentait, on voyait les démons dessus. Bon, on va y revenir. Ça. Donc, la première chose, c'est la sacralisation des objets, c'est leur attribuer une puissance spirituelle. Et on va lire quand même Romains 1, 23. On va prendre à partir de la partie du verset 18. La colère de Dieu. D'accord ? Quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit que entre Chroniques et... Quand on nous parle des deux mêmes événements, une fois ça s'appelle la colère de Dieu et une fois ça s'appelle Satan. C'est-à-dire que quand Dieu manifeste sa colère, Satan devient l'instrument. Qui a compris que Satan était un instrument de Dieu ? Satan est obligé d'obéir à Dieu. C'est l'adversaire, mais c'est une créature, qu'il le veuille ou pas. Il est déchu, il est condamné. Mais s'il reste encore sur terre, sert les plans de Dieu. Dieu a créé les méchants pour le jour du malheur. Il lui sert à exécuter ses jugements. Quand on a bien compris ça, on fera des bonnes délivrances. Amen. Vous savez, on voit dans la parole de Dieu... C'est très surprenant, par exemple, pour Saül. Vous lisez « Un mauvais esprit venant de Dieu. » Saül a péché. Dieu dit à un mauvais esprit, tiens, va le tourmenter. Ils sont obligés d'obéir. Alors s'ils étaient obligés d'obéir, Satan, dans Job, avant de pouvoir faire du mal à Job, il est allé demander la permission à Dieu. Et il lui a même pas demandé la permission de faire du mal à Job. Il a demandé à Dieu de faire du mal à Job. Mais lui, une maladie, Vivi. Et Dieu dit, je te le laisse, mais attention. Et puis Dieu lui met les limites. En réalité, ce n'est pas pour punir Job, c'était pour amener Job dans une dimension de foi tout à fait supérieure. Sur des épreuves aussi que Dieu peut envoyer. Mais qu'il le veuille ou pas, Satan, il est contraint d'obéir à Dieu. C'est pour ça qu'il obéit aussi à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons une autorité en tant que chrétien sur les démons. Amen. Alors qu'en est-il maintenant s'il devait demander l'autorisation à Dieu avant de faire des misères à quelqu'un? Qu'en est-il depuis qu'il est vaincu à la croix de Golgotha? Alléluia. Parce qu'il est vaincu, écrabouillé sous nos pieds. Oh, ils auraient tous de bons en train d'applaudir là. Seigneur, réveille-les. Amen. Alors on lit Romains 1. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, iniquité. L'injustice, c'est ce qui est différent de la loi de Dieu. Qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Les gens qui disent, non, je ne crois pas en Dieu, c'est des menteurs, parce que Dieu s'est fait connaître à tous les hommes. Point final. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. On le voit dans les effets. Il suffit de regarder autour de soi en comprenant que ce n'est pas les lois du hasard qui ont fait qu'il y ait des papillons et des fleurs. Hein. Et en plus, quand regardez vos têtes, moi je sais bien que vous ne vous êtes pas fait tout seul. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils lui ont plus à un point rendu de la grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Si vous voyez après, vous verrez que c'est la cause de l'homosexualité. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alléluia. Donc, il y a une sacralisation des personnes, des morts, des objets, etc., qui se fait pour, on va chercher dans la création ou dans la créature une protection que seul Dieu peut apporter. Ça, c'est le premier palier de l'occultisme. Deuxième catastrophe qui fait que l'homme a peur en permanence de la santé. L'homme qui était en parfaite santé, le péché a amené la mauvaise santé. Ce n'est pas forcément notre péché qui amène notre mauvaise santé, attention. Le péché de la terre amène les microbes, amène des maladies, amène des choses, etc. Vous avez des bébés à peine nés, ils meurent. Pourquoi? Parce que c'est le péché de l'homme. Et plus la terre est polluée, plus elle est polluée par le péché, plus la maladie s'accroît. Alors l'homme, il colmate une brèche d'un côté, paf, il y a une autre maladie qui arrive. Et les maladies vont devenir telles qu'il est écrit à la fin des temps que les hommes chercheront la mort de douleur. Ça veut dire que les médecins ne seront même plus capables de soigner la douleur. Ils chercheront la mort. C'est écrit dans l'Apocalypse. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait tout le temps, dès que l'homme commence à acquérir une maladie, il y en a une autre qui apparaît. Et puis une autre qui apparaît. Et puis ça va être de plus en plus grave. C'est comme ça. Puis notre corps, il est fait de poussière, donc même des chrétiens peuvent être malades. Hein. Dieu peut guérir, mais des chrétiens peuvent être malades. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont pécheurs. Quelquefois, il y a une cruauté dans les églises. Alors, santé. L'homme a peur pour sa santé. Dieu propose, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu peut nous guérir. Dieu aime nous guérir. Dieu veut nous guérir. Jésus a porté toutes tes maladies. C'est par ses vertus qu'on est guéri. Donc, le plan d'amour de Dieu, c'est de nous guérir. Amen. Dieu a donné la médecine à l'homme. La médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Le corps, quelquefois, se guérit tout seul. C'est Dieu qui guérit. Mais Satan va face, surtout quand les gens ont très mal ou qu'il n'y a pas de solution, autre, mais, tout de suite, il y a quelqu'un qui dit « Rapida, je connais le guérisseur, il guérit tout le monde, machin. Bon, » hein. Donc, il va proposer immédiatement des guérisseurs, des choses. Il va tout de suite proposer ces solutions diaboliques. Alors, on en a un très bel exemple. Vous savez, la Bible n'est pas un traité de démonologie. Donc, on ne parle pas énormément de Satan. Mais le peu qu'on nous en parle, c'est toujours très clair. En 2 Rois 1, vous avez le roi Ahazia, roi d'Israël. Donc, il est censé connaître quand même son Dieu. Il a toutes les Écritures. Il se casse la figure, il tombe de sa chambre haute, il se blesse très violemment. Et quel est son premier réflexe? Il a dû entendre parler d'un grand guérisseur là-bas, qui doit habiter à quelques centaines de kilomètres, ça fait lourd à l'époque. Et la première réaction, c'est d'envoyer une délégation. Il est dit au dieu d'Écron. Vous savez, il y avait toutes les peuplades autour, ça c'était les Philistins, ils avaient un dieu à Écron, c'était un dieu d'Écron. Mais tous les dieux païens, ils ont toujours des grands prêtres. Alors, le dieu d'Écron devait être, le grand prêtre du dieu d'Écron devait être connu pour ses guérisons. Et donc, c'est la première chose. Première réaction du roi d'Israël, c'est d'envoyer au dieu d'Écron une délégation pour aller consulter les grands prêtres, pour savoir comment guérir. Manque de peau! En chemin, il rencontre l'ennemi public number one. Il est le Tishbite. Prophète Élie, qui n'est jamais là où on l'attend. Qui est transporté de temps en temps dans les airs. Qui se trouve en plein au milieu sur le chemin. Et qui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, ah ben, on va que je dis, et l'Élie Tishbite a dit, ah ben, il y a point de Dieu en Israël? Et quand on lit Aïda de Roi, hein, il dit, mais pourquoi allez-vous consulter? On a le nom de ce dieu d'Écron, ce fameux guérisseur, Baal-Zébub, le prince des mouches. Dieu est très clair pour se dire qui se cache derrière les guérisseurs. À partir du moment où on fait appel à une spiritualité qui n'est pas de Dieu, on est dans l'occultisme, et donc, en réalité, on s'avance. On fait appel au monde de Satan. Il n'y a que deux mondes de spiritualité. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Mais Satan fait toujours croire que la spiritualité, que le... vous savez qu'il y a énormément de guérisseurs qui sont convaincus que c'est un don de Dieu qu'ils ont. Ah, Dieu m'a donné un don, ils ne sont même pas convertis, ils sont... Je connais même un pasteur africain. J'ai mis longtemps à percuté, qui disait, mais quand j'étais petit, moi, Dieu m'avait déjà donné un don, je pouvais, j'avais des paroles de connaissance, j'avais des prophéties, et déjà, je commençais à guérir des personnes. J'ai mis très longtemps à comprendre, et il n'était pas converti, qu'en réalité, il avait reçu des dons sorciers, il était convaincu que c'était des dons de Dieu. Et quand il s'est converti, il a gardé les deux. Je ne vous dis pas le micmac que ça peut faire. Et ben, je peux vous dire que dans beaucoup d'églises, il y a un micmac pas possible entre la spiritualité de Dieu et la spiritualité du diable. Vous dites, comment ils peuvent cohabiter? C'est qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par le fait que, au niveau de la délivrance, ben, en fait, mais comment le diable ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit? Qui n'a pas entendu ça? Ah oui? Mais s'il ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit, le diable, mais comment le Saint-Esprit peut-il être dans le monde? Le monde entier est sous la puissance du malin. Attendez, quand le Saint-Esprit est là, c'est le diable qui a peur, hein, pas le contraire. Le diable, il est vaincu. Et puis, enfin, dans le temple, vous avez les lieux saints, vous aviez le lieu très saint, vous avez des lieux où il y avait des tas de choses impuretées. Quand on nous parle du temple d'Ézéchiel, il y a la gloire de Dieu qui est dedans. Il y a la puissance de Dieu qui est là. Et il y a des abominations derrière les murs. Il y en a qui prient Tammuz. fils de Sémiramis. Encore une de ces divinités. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de parler de cette semaine, de tous ces machins-là. Il y en a d'autres qui prient Moloch, qui sacrifient des enfants dans l'église, dans le temple de Dieu. Pourtant, il y a toujours la gloire de Dieu dedans. Et puis petit à petit, quand même, la gloire de Dieu va partir par palier. Mais il ne faut pas oublier que le peuple est parti. Le peuple est parti. Il est à Babylone à ce moment-là. Et la gloire de Dieu part vers l'Orient. Elle va rejoindre le peuple. Et puis, il n'y avait plus le peuple dedans. Donc, il n'y avait pas de raison de s'accrocher aux pierres, au Saint-Esprit. Pas dans les pierres. Il s'intéresse aux hommes. Hein, d'accord ? Il est dit dans la parole que si Dieu enlevait son esprit, toute chair disparaîtrait. Donc, le Saint-Esprit, il n'a aucun problème à cohabiter avec le diable. C'est le diable qui est mal. Plus vous avez le Saint-Esprit quelque part, plus les démons se manifestent. Plus ils se mettent à crier. Plus ils se sentent mal. Moi, j'ai vu des réunions, quand il y avait une très très grande onction, vous avez des gens qui sont vraiment bien habités, ils se mettent à crier, partent comme des fusées. C'est les démons en eux qui ne supportent pas la présence. Donc il faut arrêter avec ça. C'est absolument pas biblique. La Bible nous montre qu'il peut y avoir une cohabitation. On en a un exemple extraordinaire avec Pierre. Matthieu 16. Tout d'un coup, Jésus pose la question, qui disons que je suis? Alors, ah, on dit que t'es Élie, t'es ceci, machin. Tout d'un coup, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, c'est le Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Pierre, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, avait dans le cœur le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il a dit ça. Jésus le dit très clairement. Tof, 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 tof. 5 versets plus loin. Jésus annonce sa mort, annonce que les pharisiens et les scribes vont le mettre à mort. Le sentimentalisme de Pierre ne le supporte pas. Et à ce moment-là, il dit, à Dieu ne plaise que cela ne t'arrivera point. Qu'est-ce que Jésus dit? Regarde-moi Satan. Il a juste dit un petit mot gentil. Enfin, humaniste, disons. À rire de moi, Satan, parce que tes pensées sont celles d'un homme et non celles de Dieu. Il n'a pas dit tes pensées sont celles de Satan. Hein. Tes pensées sont celles d'un homme et non de Dieu. Ça veut dire que, en l'espace probablement de quelques minutes, peut-être quelques instants, on n'en sait rien, ça ne nous est pas dit. Et il y avait un moment donné où le Saint-Esprit parlait par la bouche de Pierre. Et quelques temps après, c'était le démon qui parlait par... C'était Satan lui-même qui parlait par sa bouche. Il n'était pas en train de se promener en arrière. Hein. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On l'a vu hier. Que des chrétiens pouvaient attraper des démons. Amen. Donc il faut arrêter avec ces fausses doctrines qui n'ont rien, aucun fondement biblique. Aucun. Alors donc... Dieu nous dit clairement en 2 Rois 1 que derrière tous les guérisseurs, derrière ces fausses guérisons, dès qu'on fait appel à un spirituel, si ce n'est pas le spirituel de Dieu, c'est le spirituel du diable. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que souvent la confusion elle est très forte. Et elle est de plus en plus forte. Le New Age est la plus gigantesque entreprise de confusion que le diable n'ait jamais installée sur Terre. Et il pénètre partout, 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 y compris dans l'Église. Amen. Alors si on n'est pas bien ancré dans la parole de Dieu et si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, nous allons nous faire embarquer dans tous les sens. Et moi je me suis fait embarquer plusieurs fois, hein. J'ai confondu des dons de Dieu avec des dons du diable avec des dons de Dieu. Hein. Ne croyez pas qu'il y ait des grosses différences. Hein. Le diable imite très bien Dieu. Dans la guérison, dans la prophétie, dans les paroles de connaissance, il imite très bien Dieu. Pierre, il a heureusement pour moi que le Seigneur m'a éclairé quand même. Alléluia. Ah ben, bien sûr qu'il peut y avoir des parlers en langue diabolique. C'est évident. Même chez la même personne, moi un jour j'ai eu à parler en langue diabolique. Vous savez comment je m'en suis aperçu? J'étais en train de prier en langue. Puis à ce moment-là, j'avais beaucoup de colère dans le cœur. Parce que c'est justement ce pasteur dont je parlais, qui m'avait fait des coups pas possibles. Alors j'avais eu... Enfin bref, j'aurais trouvé juste que le ciel tombe sur la tête. Quoi. Et donc j'avais beaucoup de mal à combattre cette colère. Et j'étais en train de prier en langue, et tout d'un coup, ben, ma pensée a commencé à repartir là-dessus, puis la colère montait. Et tout d'un coup, je m'entends prier en langue, et je me rends compte que mon parler en langue avait complètement changé. Je m'arrête net. Je dis, Seigneur, c'est pas de toi. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, le Seigneur m'a interpellé sur les pensées que j'avais à ce moment-là. Mais j'avais les pensées remplies de colère. Comment oubliez-vous que le Saint-Esprit soit en train de parler par ma bouche? Mon cœur était rempli de colère. Et bien, c'est ce qui est sorti de l'abondance de mon cœur qui était plein rempli de colère. Il est sorti dans la bouche, même langue, à parler en langue. Ouh là là! Ce jour-là, j'ai dit, d'accord, Seigneur, je veille sur mon cœur, même quand je te prie. Amen! Ça arrive très souvent, c'est pour ça que j'en profite pour dire quelque chose par rapport à la délivrance. Dans la délivrance, je n'ai jamais les gens prient en langue. Pendant une délivrance. Parce que vous pouvez avoir les démons qui se mettent à prier en langue et à utiliser la personne pour prier en langue, lancer des malédictions et contrer ce que vous faites. Donc je dis toujours aux gens, arrêtez. S'ils doivent prier à un moment donné, je leur dis, allez-y, priez avec moi, mais en clair, pas en langue. Pas pendant une délivrance. Pas pendant une délivrance. Bon, pendant une délivrance, je pense que je n'aime pas. Hein. Mais pendant une délivrance, je fais très attention que les gens ne se mettent pas à prier en langue. Parce que j'ai eu de ces trucs. Je voyais des gens qui priaient. Ah, je dis, ah ouais, ça va, ils m'aident, ils prient en langue. Puis tout d'un coup, je voyais sortir une langue comme ça. Je voyais des yeux qui sortaient comme ça. Puis tout d'un coup, je me rendais compte qu'ils prophétisaient. Et une fois, j'ai même eu la personne qui a donné l'interprétation derrière. C'était directement des malédictions contre moi. Bon, le Seigneur, moi, il fait comme avec chacun de nous, hein, il m'éduque, il m'enseigne. Alléluia. Mais je voulais partager des expériences. Mais chacun d'entre nous, on peut avoir fait des expériences similaires. Alléluia. Bon, la santé, la peur, quand on est malade, quand on tombe malade, et surtout quand les médecins ne savent pas guérir, Satan ne va pas nous louper pour essayer de nous proposer des solutions diaboliques. Hein. Alors faisons attention, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun médecin qu'on peut aller voir, sauf si on les connaît bien, sans être sûr qu'ils ne font pas du New Age et des pratiques occultes. On est obligé de demander au Seigneur. Vous n'avez pratiquement plus un kiné, ne parlons pas des chiropracteurs ou des ostéopathes. Moi, je connais des ostéopathes qui se sont convertis, ils ont dit, Michel, 99% d'entre nous, on a été enseigné dans des trucs occultes. On fait du magnétisme avec la main. Aujourd'hui, dans la plupart même des entreprises, tous les trainings de vente et autres sont complètement sur des bases occultes. Bon, on est dans ce monde-là. Bon, écoutez, Jésus a choisi de nous faire vivre dans ce monde-là. Il a bonne raison. Hein. Il a choisi de nous faire vivre dans cette fin des temps. Il y a peut-être beaucoup de monde qui ont voulu voir ces temps. Hein. On va peut-être voir le retour de Jésus. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants. OK ? Donc il y a plein de médecins. Il faut vraiment demander au Seigneur avant de nous guider. Mais il va nous guider. Il va nous guider. Il va fermer les portes. Seigneur, que j'aille pas. Que j'aille pas. Un jour, je vais voir... J'ai décidé d'aller au plus près, d'aller voir le médecin à côté de chez moi. Et quand je rentre, c'était une femme, quand je rentre, devant, il y a une atmosphère. Vous savez, quand on a un peu la pression, je vais être une oppression. Là. Et je m'assieds en face d'elle, elle me dit, de quel signe astrologique êtes-vous? Je dis, je suis du signe de la croix. Non, écoutez, madame, je vous demande votre signe astrologique. Je dis, je me réponds, vous êtes du signe de la croix. Bon, quelle est votre date de naissance? Je suis levé, je suis parti. Point final. J'avais affaire à un agent du diable. Je ne vais pas me confier à un agent du diable quand même, non? Alléluia. L'avenir. Ah Seigneur, mon Dieu, l'avenir. S'il y a une des choses qui a été le plus répétée par Dieu, c'est ne crains pas. La peur de l'avenir. Jésus. Matthieu 6, ne craignez pas le lendemain. Mais de quoi as-tu peur? Tu m'as donné ta vie. De quoi as-tu peur? Même Dieu s'occupe des lys, même Dieu s'occupe de des oiseaux, même vous avez plus de valeur. Si on appartient, on est fils de Dieu, notre avenir, écoutez, franchement, notre passé est effacé, notre avenir est dans la main de Dieu, on a le temps de vivre le présent, faisons-le. Parce que les païens ne peuvent jamais vivre le présent. Ils ont le poids du passé, ils ont l'avenir qui est hyper incertain, ils sont toujours obsédés par ce qui va leur arriver le lendemain, et ils ne vivent jamais le présent. Amen. Nous, on peut être joyeux, on peut être comme des enfants. On a un papa qui s'occupe de notre avenir. Alléluia. Et pas seulement sur terre. Toute l'éternité. Amen. Donc s'il y a quelqu'un qui a peur, attention. T'as peur du lendemain? Est-ce que t'es bien converti? Quelquefois, il y en a qui ont été mis sous des joues de peur. Il y a des esprits de peur. D'accord? Mais l'avenir, les gens sont terrorisés par leur avenir. L'avenir est incertain. Il y a le chômage, il y a la maladie, il y a ceci, il y a cela, il y a la précarité, il y a des trucs. Vous entendez, vous pouvez ouvrir les nouvelles, vous entendez des mauvaises nouvelles de toute façon. Hein. Donc l'angoisse monte, et on le sait très bien que l'avenir de la Terre, même les jeunes, même s'ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils n'ont jamais lu la Bible, ils savent que l'avenir de la Terre est fini. On vous le dit tous les jours. Il n'y a qu'à regarder la température, on sait qu'il y a des problèmes énormes qui arrivent. Et puis en plus, il y a des catastrophes qui s'accélèrent partout. Donc l'angoisse monte. Amen. Donc les gens ont peur de leur avenir. Ben, Satan. Est-ce que notre avenir est écrit? Ah, la bonne question. Mais si votre avenir est écrit, c'est Mektoub, Inch'Allah. C'est même pas la peine de prier, tout est écrit d'avance. Ce n'est pas parce que Dieu connaît tout d'avance que les choses sont écrites. David s'est crié, mes destinées sont dans la main de Dieu. Nous pouvons changer notre destinée à tout instant. Jésus, il a dit, ressuscitez les morts. Mais attendez, si vous ressuscitez un mort, je trouve que sa destinée, ça change un peu quand même. Hein. Si on était paralysé, qu'il nous guérit, ça change un petit peu notre destinée, avec la prière. Notre sœur a témoigné tout à l'heure du fait que son enfant avait changé. Sa destinée a changé. Satan avait écrit une destinée, mais Dieu en avait préparé d'autres. Et il suffisait de faire la bonne prière, de prier, de croire devant la foi. Nous pouvons tous les jours changer la main de Dieu. Et toute la Bible nous montre des changements, même des plans de Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Jonas. Va dire encore 150 jours, 40 jours et Ninive sera détruite. Ninive qui se repent. Et la ville a été sauvée pour 150 ans. Bon, elle a recommencé un peu à pécher derrière. Un peu beaucoup même. Mais on peut changer tous les jours, tous les matins. Il est écrit, tous les bienfaits de Dieu se renouvellent tous les matins. Donc tous les matins, on peut changer notre destinée. Amen. Amen. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Amen. Amen. Il a pour nous un avenir et de l'espérance. Amen. Mais nous avons une participation à faire. Prier, louer, adorer. Nous avons notre part à faire. Et nous allons voir des choses s'accomplir. Ayons la foi. Vous ayez la foi comme un grain de sénévé et vous dites à cette montagne de partir. Bon, vous habitez, je ne sais pas dans quel coin, mais tout d'un coup vous dites, toi, Mont Blanc, au nom de Jésus, je t'envoie dans la mer. Ça change un petit peu la destinée de la région, à mon avis. Alléluia. Le tourisme change, enfin bref. Les skieurs changent de coin. Mais c'est vrai pour nous aussi. Je veux dire que notre vie peut changer tous les jours. Dieu connaît d'avance tout ce que nous allons faire. C'est pour ça qu'il l'a dit dans le psaume 139, qu'il connaissait tous les jours de notre vie. Parce qu'il connaît d'avance les prières que nous ferons, quand nous les ferons, ce que nous demandons. Il sait tout d'avance. Dieu savait, alors que j'étais pendant 50 ans dans le péché, qu'un jour je viendrai à lui. Donc il avait tout préparé d'avance. Amen. Il avait déjà tout inscrit tous mes jours. Mais je n'en avais pas, moi, une totale liberté de choix. Amen. Donc, nous écrivons notre destin avec Dieu. Avec la prière, avec les armes, avec le combat, avec l'intercession. Nous écrivons, nous pouvons transformer la main de Dieu, les plans de Dieu. La malédiction peut se transformer en bénédiction. Nous en avons des exemples tout le long de la Bible. Amen. De prières qui ont changé complètement les destins. Alléluia. Amen. Donc, notre avenir est dans la main de Dieu. Nous n'avons absolument pas à craindre notre avenir et nous pouvons l'écrire avec Dieu simplement par la prière et on peut avoir une confiance totale. Mais les gens, ils vont chercher quoi? Les astrologues, les devins, etc. Il est trop tard pour que je rentre dedans, mais je pourrais vous donner un nombre de... parce que je vais traiter beaucoup de choses. Peut-être qu'on y reviendra dans la semaine. Mais le nombre de passages de la Bible qui vous parle d'aller consulter des devins, des astrologues. On va quand même lire le Deutéronome 18-10, parce que je voudrais quand même... C'est un résumé de ce qu'on trouve dans Lévitique 20, de ce qu'on trouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, vous avez un résumé d'un certain nombre de pratiques occultes. À partir du verset 10, qu'on ne trouve, d'abord, on vous parle juste avant des abominations, des nations qui entouraient Israël. Qu'on ne trouve chez toi qu'il fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous savez qu'à l'époque, Satan réclame toujours des sacrifices. Je vous ai parlé de 3 ou 4 générations, il réclame des sacrifices humains. Et je voudrais vous dire que quand vous apportez même une photo, vous sacrifiez la personne dont vous apportez la photo. Vous donnez le droit légal à Satan d'agir sur elle. D'accord ? Quand dans les fétichismes, les gens apportent un animal, cet animal symbolise une personne. Poulet va représenter un jeune, la poule va représenter l'épouse ou la mère, le coq va représenter le père. Satan réclame des sacrifices. Les marabouts font amener des œufs. Ça représente des enfants à venir qui sont mis en sacrifice. Après, on s'étonne pourquoi tout d'un coup, fausse couche, mortalité. Des choses qui sont écrites. Satan réclame des sacrifices pour qu'un pacte soit signé, il faut un sacrifice. Point final. Mais il le fait. Mais qu'est-ce qui se passe quand on consacre un bébé à des morts dans le cadre catholique? À la reine du ciel, à travers appelée Marie ou Isis, peu importe. Ça revient au thème, c'est la reine du ciel. On en reparlera cette semaine. On vient présenter et mettre le bébé sur l'autel de Satan. Et pas du tout sur l'autel de Christ. Et le bébé est littéralement consacré à des démons. Ça donne le même droit à Satan. C'est comme si on lui avait mis un couteau sur la gorge pour le transpercer. Simplement, Dieu peut réduire la peine et peut faire que simplement... Mais il y aura des malédictions qui vont arriver. Il y en aura. D'ailleurs, ça fait partie des choses que nous devons faire, c'est de, si nous avons eu des baptêmes catholiques, de briser, d'ailleurs il faut le faire systématiquement, de détruire toutes les paroles qui ont pu être prononcées dans ces baptêmes de consécration. Et vous savez, c'est très impressionnant quelque part ce qu'on fait, ce qu'on voit comme délivrance quand on fait ça. Combien d'entre vous ont été baptisés catholiques? 90%. Moi aussi, hein. J'ai dû le faire. Un jour, je sors de chez ma fille, qui est totalement athée, qui est antéchrist, qui ne croit même pas en Dieu, et qui m'avait fait un souk pendant tout le repas pour me défendre l'Église catholique. Mais maman, tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que tu as contre, machin, etc. J'étais sidérée, mais qu'est-ce qu'elle a? Je ne l'ai même pas élevée dans la religion catholique, mais qu'est-ce qu'elle a à me défendre ça? Je suis partie, j'étais un zombie quand je suis sortie de chez elle. Tellement elle avait été d'une violence inouïe. La conversation. Et puis c'était surréaliste, quoi. Et j'étais là, j'étais dans ma voiture, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est produit? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur qui me dit, mais tu l'as baptisée catholique, elle a été consacrée à la Sainte Église catholique romaine. Elle a été consacrée à cette église. Donc elle est liée à cette église. Donc elle la défend. Même si elle ne le sait pas, même si elle ignore tout, elle est liée, il s'est passé un acte. Je me suis humiliée devant Dieu, j'ai demandé pardon et j'ai détruit cette chose que j'avais faite. Plus jamais ma fille m'en a parlé, ça a été terminé. J'avais mis un lien très puissant qui sortait 40 ans après sous forme d'une défense, d'une violence inouïe de ce truc. Vous étonnez pas qu'on ait tellement de mal à amener les catholiques dans la vérité. La plupart du temps, ils ont été liés par les paroles chaque dimanche. Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, je crois à la très sainte Église catholique romaine. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'une organisation terrestre vient faire là-dedans? Dans les choses divines.
Et sur les convertis, donc les chrétiens, et qu'on accepte d'être parents marraine à quelqu'un qui se base
en Christ. Bon, ce serait vraiment un peu trop compliqué de rentrer là-dedans. J'ai pas le temps. On n'est pas dans l'occultisme, on est dans des choses qui peuvent être abusives, mais j'ai pas le temps de rentrer là-dedans parce que ça va susciter des discussions. On n'a pas le temps cet après-midi. Je devrais avoir déjà fini, franchement. Et je veux traiter encore deux gros sujets, d'accord? Il y aura peut-être un temps, si on trouve cette semaine, de questions-réponses. Mais là, on va passer des gros, gros trucs, parce que la plupart des questions de maintenant, on aura leurs réponses dans la semaine. D'accord? J'espère, chaque fois que je dis qu'il y aura un temps de réponse, il n'y a jamais le temps. Alléluia. Amen. Alors, les gens consacraient leurs enfants à Moloch, nous est dit d'Amos, pour agrandir leur territoire. C'est-à-dire qu'ils apportaient en sacrifice leurs enfants à Moloch. Et Moloch était représenté par un dieu qui avait un feu et on jetait les enfants dans le feu. L'avortement est exactement la même chose aujourd'hui. Les enfants sont arrachés, vivants et jetés dans le feu. D'accord? Beaucoup d'entre nous ont fait ce genre de choses en ignorant que c'est un sacrifice à Satan. La malédiction dégringole sur tous les pays qui font de l'avortement, comme c'est le monde entier maintenant, dégringole sur le monde entier. Il n'y a pas que l'avortement, mais il y en a. Mais ça fait partie des plus grosses abominations qui soient. Vraiment, on sacrifie les enfants. Pour du bien-être, pour du confort, pour ceci, pour cela. Il y a le canapé acheté avant, la télévision, l'ordinateur, le machin. Les études à terminer avant, et puis allez hop, les bébés à la poubelle. Puis de toute façon, on peut faire l'amour. Par exemple, j'ai l'âge de 14 ans, c'est un petit jeu, c'est normal, c'est bon pour la santé, tout le monde sait ça. C'est-à-dire, c'est une perversion totale d'un acte de vie que Dieu a donné, qui est devenu un acte de mort. Amen. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. On devient des abominations à Dieu. Et la réalité, je n'ai pas le temps de vous donner tous les textes, mais si vous saviez le nombre de textes où Dieu nous livre à Satan. Quand on est une abomination, on est livré à Satan. Je te le livre. Comme Dieu a dit à Job, je te le livre. On enverra un texte hein, quand même tout à l'heure. Je te le livre. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Ça veut dire qu'ils vont perdre tout leur territoire. Les Indiens d'Amérique, les Caraïbes, ont perdu tout leur territoire. Ils faisaient de l'occultisme par-dessus la tête. Ils faisaient de la sorcellerie, de la magie, ils faisaient des sacrifices humains, etc. On peut voir des gentils petits films de western où les Indiens sont tellement mignons, mais Dieu a mis un jugement. Ils ont perdu tout leur territoire. Ils ont perdu toute leur terre. Si vous allez dans les Caraïbes, il y a des Guadeloupéens ici, ou des gens qui viennent de Martinique ou autre, non? Ben, il n'y a plus de Caraïbes, ça appartenait aux Caraïbes, ils sont réfugiés à la Jamaïque, ils sont réduits à pratiquement rien, ils ont pratiquement été tous destinés. C'est des jugements divins qui sont tombés. Amen. Vous avez en Afrique des pays qui ont été rayés de la carte, Biafra et compagnie, rayés de la carte à cause de l'occultisme qui était là. Sauf que c'est à cause de ces choses que Dieu va repousser des nations devant toi. C'est pas parce que tu es meilleur, mais c'est, ils ont fait telles abominations que maintenant ils vont tout perdre. Donc, Satan a le droit légal de nous ruiner complètement, de tout nous prendre, tout nous voler, toutes nos possessions. Et en plus, nous sommes livrés à Satan. Et ceux qui consultent sont mis au même rang que ceux qui pratiquent dans ce texte. C'est exactement la même chose, parce que c'est le même manque de foi en Dieu. Et on va chercher dans le camp de Satan ce qui est de la spiritualité du diable. Alors, beaucoup de gens donc sont inquiets par leur avenir maintenant, vont consulter les astrologues, les voyants, les médiums, tout ce que vous voulez, avec tout ce que ça fait. Je ne vais pas parler de la peur de manquer, parce que la plupart du temps, parce qu'on va avoir le temps de parler de Mammon cette semaine, j'espère. Je vais y consacrer un truc entier, tellement c'est important dans la délivrance. C'est que c'est des gens qui jouent, c'est ça?
Oui, ils veulent descendre avec vous.
Ah, d'accord. Bon, on les bénit. Un des trucs les plus qui amène le plus d'occultisme, c'est la peur de la mort. L'âme est terrorisée par la mort. Amen. Et nous allons voir qu'il y a un lien direct entre la religion et la mort. L'homme, pourquoi est-ce qu'il a tellement peur de la mort? Si l'homme était sûr qu'après la mort, c'est le néant, il n'aurait pas peur de la mort. L'homme, il est dit, il est écrit dans l'Ecclésiaste que Dieu a mis sur le front de tout homme le sceau de l'éternité. C'est-à-dire, tout homme sait qu'après la mort, il se passe quelque chose. Amen. Celui qui le nie est un menteur. S'il y a une telle terreur de la mort, c'est parce que les gens ont peur de ce qui va se passer après la mort. Tout homme sait au fond de lui-même qu'après la mort, il y a un jugement. Il le sait. Donc il a la terreur de la mort. Et Satan va tout faire pour lui faire croire que, par exemple, les satanistes et les francs-maçons pensent qu'ils vont régner avec Satan. Ils pensent que Satan a gagné. D'ailleurs, les francs-maçons ne l'appellent pas Satan, ils l'appellent Lucifer. Pareil, hein. C'est son nom avant qu'il chute. Bon. Donc il croit, d'autres pactisent avec la mort. Mais le meilleur moyen de faire croire que la mort c'est pas si grave, c'est de faire croire, et vous ne pouvez pas ne pas entendre un film ou une série télévisée, quand on vous parle de quelqu'un de mort, automatiquement, il voit toujours ce qui se passe sur Terre, il va protéger ceux qu'il aime. Ne t'inquiète pas, il est parti, il n'est pas loin, il voit ce que tu fais, etc. Et donc, très naturellement, les gens parlent, mais il n'est pas mort. Dans le catholicisme, on prie des morts. C'est eux qui sont censés nous protéger. D'accord ? J'ai mis cette semaine en ligne, pour ceux qui ont vu mon site, non, je ne l'ai pas mis cette semaine, je l'ai mis il y a 15 jours, tous les versets bibliques qui montrent et qui démontrent que les morts en Christ, selon notre temps terrestre, ne sont pas ressuscités. Il y en a des dizaines. Il n'y en a pas un qui dise le contraire. Il y en a des dizaines qui nous disent que c'est à la dernière trompette que les morts en Christ vont ressusciter premièrement, qu'on sera tous enlevés en mode devant du Seigneur, qu'il y en a, je ne sais pas combien, Jésus a dit, je le ressuscite au dernier jour, 4 fois dans le truc. Mais Satan va tout faire pour faire croire que les morts continuent à vivre et ont encore une influence sur Terre. D'accord ? Nous allons voir qu'il y a en plus une gigantesque confusion entre le monde des esprits de l'homme et l'âme. C'est l'âme qui pêche en pêche, c'est l'âme qui passe en jugement, et le vrai moi, c'est l'âme. C'est le siège de l'intelligence, c'est le siège de la personnalité, c'est le siège de la volonté, c'est le siège de la mémoire, c'est le siège de tous les sentiments, c'est l'âme. D'accord ? L'homme devint une âme vivante. Amen. L'esprit, c'est ce qui lui permet d'être lié au monde spirituel de Dieu ou du diable. On est bien d'accord. et les destinées, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne pense pas que j'aurai le temps cette semaine, mais je vous renvoie à mon blog parce que j'ai étudié ça vraiment de près, parce que j'ai dit qu'il y a une telle confusion, même dans, partout dans les églises, sur la différence entre le devenir des esprits et des âmes après la mort, et Satan va jouer sur cette confusion. D'accord ? Satan joue sur cette confusion. Comme on va en parler aussi un peu dans la sorcellerie ce soir, Satan joue sur cette confusion. Mais les âmes des morts, où vont-ils ? Il n'y a pas un instant dans le Nouveau Testament où on vous dit le contraire. Dans l'Ancien Testament, on vous dit dans Saint-Abraham. Dans le Nouveau Testament aussi. Ça veut dire qu'ils sont en repos, en attendant la résurrection. Jésus a dit, oui, les morts ressusciteront. Ils ressusciteront le dernier jour. Amen. C'est-à-dire au moment de son retour. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Il y a une première résurrection, il y en a qui auront part à la deuxième résurrection. Dit le truc. Et puis il y en a qui n'auront pas aucune résurrection du tout. D'accord ? Qui sont condamnés. Et il est dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Pourquoi ? Parce qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Un truc un peu sympa là que je vous passe. Parce que ses proches, ceux qui vont vraiment marcher avec Christ, vont avoir part à la première résurrection. Puis il y en a même qui vont partir, enlever, pas passer par la mort du tout. Vous savez, les petites ailes comme Élie et Enoch là. Même pas besoin de petites ailes. Fit ! Alléluia. Là, vous êtes, il est dit des deux, là, vous êtes à côté de votre femme ou de votre mari. Vous réveillez. Bonjour chérie, tu veux ton petit café ce matin ? Mais t'es où ? Oh, il est parti. Oh Seigneur, moi je suis restée. Puis ça va être un peu chaud pour ceux qui vont rester. Hein, bon. Alors donc la peur de la mort, ça va nous amener. Vous savez, il y a très peu de temps que j'ai découvert que, la forme la plus puissante d'occultisme, la plus cachée, c'était les religions. Mais ça commence par la peur de la mort. Les gens savent qu'il y a la mort. Et donc, ils croient que les morts. Moi, j'ai fait du spiritisme pendant très longtemps, donc j'ai invoqué les morts, je faisais des écritures automatiques. Parce qu'ils connaissent mon témoignage, moi, c'est un peu gratiné. Hein. Heureusement que là où le péché a abondé, la grâce surabonde, j'en suis un exemple ambulant. Alléluia. Amen. Donc, les gens sont convaincus que les morts en Christ, y compris dans la chrétienté, peuvent nous protéger. Vous parlez à des catholiques et vous dites, mais Marie, elle est auprès de Christ, elle peut intercéder pour nous. Oh, mais mon grand-père, mais attends, il est mort en Christ, il était chrétien, mais attends, il est auprès de Dieu, il peut intercéder pour moi. Beau sentiment, hein. Allez démonter ça. Vous ne pouvez pas le démonter si vous ne démontrez pas. Premièrement, que les morts n'ont plus le moyen d'avoir la moindre action parmi les vivants, avec la Bible en main. Mais moi, je l'ai fait. Hein. Puis j'ai demandé à mon curé, comme le curé est complètement ignorant, j'ai eu beaucoup de prêtres, moi, qui écoutaient mes émissions radio, qui lisaient mes livres, qui disaient, on ne nous enseigne pas ça. Très malheureux. J'ai entendu beaucoup. Hein. Mais à ce moment-là, il faut sortir d'elle. Hein. Il y en a qui font, il y en a qui le font. Puis il y en a qui ont peur. Peur de l'avenir. Alors, premièrement, ils ne sont pas ressuscités. Deuxièmement, ils n'ont aucune action possible. On va lire Ésaïe 9. Pendant Ésaïe 9. Oui, on lira Ésaïe 8 après. Et pour le moment, on va lire Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, pardon. À partir du verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ça veut dire tant qu'on est en vie. Tant qu'on est en vie, il n'est pas trop tard. Le problème, c'est que quand on ne sait pas quand on va mourir, il faut mieux se convertir avant. Le plus tôt possible. Et plus on se convertit tôt. Je veux dire que des jeunes qui se convertissent tôt, combien ils s'évitent de problèmes ? Combien ils s'évitent de souffrances ? Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous savez, c'est un symbolique. Hein. Ça veut dire que même le plus dernier des petits bonshommes de rien du tout, considérés comme rien du tout aux hommes de Dieu, vaut mieux qu'un roi, hein, mort. Si le roi est mort sans se convertir, on sait quelle est sa destinée finale. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous savez que c'est une grâce de Dieu, qu'on sache qu'on va mourir et qu'on n'a pas de contrôle sur notre mort, parce que c'est ce qui va nous pousser à nous convertir avant qu'il soit trop tard. Mais les morts ne savent rien. Ah, moi qui ai fait du spiritisme pour interroger les morts en étant convaincu qu'ils en savaient beaucoup plus parce qu'ils étaient passés de l'autre côté, ils ne savent plus rien. Et il n'y a... pourquoi ils ne savent plus rien? Parce que, ben, ils sont morts. Il n'y a pour eux plus de salaire. Ça veut dire que... On va comprendre en lisant la suite ce que ça veut dire plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Alors, ce n'est pas notre mémoire d'eux, ce n'est pas du tout anti-biblique d'honorer la mémoire des morts. On reconnaît que chacun de vivant a une très grande valeur. C'est pas du tout une... On peut honorer les gens qui sont morts, hein. T'es pas allé leur parler, ce qui est très différent, parce que quand on leur parlait, on honore leur mémoire. D'accord? Ce qui est très différent. Dans la Bible, le fait d'être enterré comme un chien ou mangé comme un chien, c'est une malédiction. Tandis que le fait d'être enterré correctement, c'est une bénédiction. Hein. Et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aucun sentiment, ni aucune mémoire de ce qu'ils ont laissé sur terre. Pour une bonne raison, ils sont morts. C'est plus qu'un sommeil, la mort, hein. Parce qu'un sommeil, il se passe quelque chose, tandis que là, il ne se passe rien du tout. Rien. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Peu importe que vous soyez mort pendant 3000 ans en attendant la résurrection, ou vous soyez mort depuis 5 minutes, et ça n'aura aucune différence à la fin. Puisqu'il n'y a plus aucune conscience, ni du temps, ni de quoi que ce soit. Et ils n'auront plus jamais, aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Déjà la réincarnation, on oublie, hein. Mais ils n'ont plus aucune action. Les gens qui sont morts ne peuvent plus changer quoi que ce soit. Donc quand on va leur faire des offrandes, comme dans tout l'animisme, moi j'ai été là un peu partout dans tous les pays du monde, alors le nombre de pays où on honore, quand honorer les morts, on va leur mettre des fleurs tous les jours, pas pour les honorer, c'est pour qu'ils soient contents. En la réunion, je vous dis ça parce que c'est très important, parce que je peux vous dire qu'il sort des démonisations pas possibles dans des pays comme la Réunion. C'est très important, j'y pense, dans la délivrance, de connaître l'origine ethnique des gens. Parce qu'il y a des coutumes qui sont associées, il y a aussi les héritages ancestraux. Et si on connaît mal ces choses, on les apprend au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on les apprend, on est beaucoup de plus en plus performant, efficace, parce que on sait tout de suite qu'il y a tout de suite des choses qu'il faut sortir. Par exemple, les réunions, à la réunion au Madagascar, on retourne les morts tout au bout d'un an parce qu'on a peur qu'ils ne soient pas contents si on les retire. Au Cameroun, on prend les os des morts et on va leur faire des petites niches dans les maisons pour qu'ils protègent les maisons. Donc on met des ossements de morts un peu partout. Mais vous savez, dans nos pays, il y a plein d'endroits où il y a des ossements de morts sous les maisons. Où on a demandé, au soi-disant, on a demandé au curé de bénir les eaux des ancêtres pour protéger la maison. Après, on s'étonne qu'il y ait des malédictions, des esprits de mort qui se promènent. Il y a des lieux qui sont complètement maudits. Hein. Quelquefois, le Seigneur nous dit, allez, tu vas purifier ça, mais quelquefois, on ne peut pas. Il dit, va-t'en. Hein. Amen. Verset 10, tout ce que ta main trouve avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On est mort, il ne se passe rien. On attend. On attend, mais il n'y a même pas d'attente puisqu'il n'y a plus de temps. Amen. Alors donc, la peur de la mort fait que les gens ont recours à... soit ils parlent aux morts, soit ils se convainquent que les morts sont... Ça leur évite de se de se mettre en ordre avec le Seigneur. C'est pas grave, je continuerai. Puis on invente le purgatoire. Oh ben, après la mort, je vais avoir un temps pendant lequel je pourrai me purifier toutes les vilaines choses que j'aurais fait dans mon vivant. Hein. Alors on invente des tas de trucs. On invente la réincarnation. Bon, d'incarnation en incarnation, je vais devenir de meilleur en meilleur. Si c'était le cas depuis le temps en Inde qui croit à la réincarnation depuis 4000 ans, je veux dire qu'il n'y aura plus que des gens avec 25 auréoles sur chaque tête. Le temps qu'ils renaissent, puis d'ailleurs on le serait tous. Bon. Donc, le diable invente plein de fausses doctrines auxquelles les gens croient pour que les gens, au lieu d'être conscients qu'il y a une date butoir sur laquelle il n'a aucune prise, sauf s'il se suicide, mais là il s'en va lui-même en enfer. L'homme n'a aucune prise, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et cela seul doit le convaincre de se mettre en ordre avec le Seigneur très tôt. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi il y a des meurtres très jeunes. On dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais moi, j'ai vu par exemple le fils d'une amie qui avait 9 ans. Sa mère était chrétienne. Puis Dieu, oh maman, j'ai le temps, mais je m'en mange, j'ai le temps. Puis on n'a pas du tout convaincu. Et tout d'un coup, il y a un de ses camarades un peu plus âgé que lui, mais qui est mort dans un accident de moto. Il a eu un tel choc. Il a dit, maman, j'ai compris que la mort, même à mon âge, ça peut arriver. Et il s'est converti à ce moment-là. Amen. Vous savez, Dieu, tout fait pour un but. Tout fait pour un but. Il n'y a pas un événement dont Dieu ne se serve pas pour essayer de sauver les hommes. Mais l'homme, il est un petit peu obstiné. Hein. Donc, ça va nous mener très directement. Donc, comprenons bien, alors il y a plein de pas que je vais passer là-dessus. Il y a longtemps que j'ai passé mon heure. Ça va nous conduire directement en religion. L'homme coupé de Dieu, il sait qu'il doit un jour se présenter devant Dieu. Il sait qu'il doit un jour rendre compte de ses actes devant Dieu. La loi est écrite dans le cœur de tout homme. La loi divine. Amen. Elle est écrite. Et l'homme sait qu'il doit se présenter un jour devant son Créateur, même quand il le nie. Donc l'homme a peur. L'homme a peur. Et donc l'homme cherche le moyen de se réconcilier avec Dieu. Et depuis la nuit des temps, il y a des hommes qui sont, ils n'ont pas attendu Jésus pour se réconcilier avec Dieu. Hein, on nous parle tout de suite d'Enoch qui marcha avec Dieu. Vous savez, c'est après le premier mort, ça m'a frappé ce matin en préparant ce sac, je n'avais jamais vu. Mais c'est quand, après la première mort qu'il y a eu dans le monde, ça a été Caïn, c'est juste après, le verset d'après, c'est le premier meurtrier, c'est Caïn, pardon, et le premier mort, c'est Abel, évidemment, merci de rectifier, mais c'est juste après qu'il est dit, c'est qu'il y a la création de Seth, et il est écrit à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'on recommença à parler. C'est juste après la mort d'Abel. C'est comme si, et le Seigneur m'a révélé ça ce matin, qu'il y avait un lien entre les 7 ans dans Genèse. Ah ben, il l'a déjà trouvé. Oui, tu le connais bien. Donc, 4:26. Voilà, c'est ça. Seth est aussi un fils, et c'est juste après un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué, et juste derrière il est écrit, Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, c'est à partir du moment où il y a cette conscience de la mort que les gens disent, il faut invoquer Dieu, il faut chercher Dieu. Et il est évident que la première chose que Satan fait, il ne veut surtout pas qu'on retrouve le chemin de Dieu, le chemin de la vérité, et on sait qui est le chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a que Jésus, que Jésus, que Jésus. Mais avant que Jésus paraisse, il y avait déjà des hommes qui l'avaient trouvé, qui avaient compris Abel avait compris, et en offrant un agneau, il avait fait un geste prophétique, il avait compris que seul le sang d'un agneau pouvait le purifier de ses péchés. Bon. Et donc, il est dit que le sang d'Abel parle encore. Hein. Donc, de tout temps, il y a eu des hommes qui ont compris que Dieu avait déjà pourvu pour acheter l'homme. Et des hommes ont été sauvés de tout temps. Et ça nous est clairement dit dans la Bible. Hein. On a déjà, dans la transfiguration, il y a Moïse qui apparaît. Alors là, c'est un peu comme un autre temps qui survit dans le temps. On ne sait pas très bien, c'est comme s'il y avait un monde parallèle qui arrivait dans le monde, d'un autre temps, d'un autre espace qui arrive comme ça. D'ailleurs, les apôtres n'ont pas pu parler. Hein. Ils étaient un petit peu décontenancés, ils ne savaient pas quoi faire. Ça, c'est pour répondre aux questions. Ouais, mais alors, attention, il y a la transfiguration, il y avait Moïse et Élie quand même. Non, 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 on ne sait pas dans quel temps ça se passe. C'est une irruption du temps. Le temps appartient à Dieu. Hein. Bon, on connaît la relativité du temps depuis Einstein, mais c'était écrit dans les premières pages de la Genèse. Hein. La relativité du temps. Parce qu'il est écrit au premier jour, Dieu créa ceci, au deuxième jour, il créa ceci, au troisième jour, il créa cela. Et au quatrième jour, il créa les luminaires pour marquer les nuits et les jours. Donc les premiers jours, les jours de la Genèse ne sont pas nos jours à nous. Hein. Amen. D'ailleurs, c'est dit aussi dans la Bible, un jour est comme 1000 ans pour Dieu, etc. Donc on nous parle de la relativité du temps. Ça a été découvert après par l'homme, ne fait que découvrir ce que Dieu a déjà fait, écrit dans la Bible depuis longtemps. Donc en fait, l'homme a peur de l'éternité. Et Satan va lui proposer toute solution. Donc il va lui proposer des religions. Le mot religion veut dire en lui-même, c'est chercher moyen d'être relié à Dieu, de retrouver la communication et la communion avec Dieu. C'est pas le mot en lui-même n'est pas mauvais, sauf que il y a où toutes les religions sont perverties et que quelqu'un, quand on est chrétien né de nouveau, on n'a pas une religion, on a une relation avec Dieu. Mais même comme ça, Satan va toujours essayer de nous mettre dans des religions, de rituels, de trucs qui vont nous donner de l'autosatisfaction, le sentiment que tout va bien. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites de par ce genre de choses. Amen. Donc les religions, dès le départ, on peut aussi aller fouiller tous les ossements des autres, vous allez trouver des traces de religion, de fausses religions, et accompagnées de sacrifices animaux, sacrifices humains. Partout dans le monde entier, il n'y a pas un endroit où il n'y ait pas une religion. Et je dirais même que l'athéisme est une forme de religion. C'est l'humanisme, on fait la religion, c'est l'homme qui est Dieu. Hein. Soyez clair, hein. On a divinisé l'homme. En France, les gens qui se disent athées, ils ont divinisé l'homme. Ah, ils ont un autre Dieu, c'est eux-mêmes, c'est l'homme qui est Dieu. Amen, c'est l'humanisme. C'est l'âme qui est Dieu. Mais autrement, toutes les religions sont... Alors, le mot religion n'est utilisé qu'une fois dans la parole. C'est dans Jacques qui dit la religion pure et sans tache consiste à aller visiter les orphelins. Ça veut dire que la véritable religion absolument pure, quand on a une relation avec Dieu, ça va se traduire par des actes d'amour. Hein. Donc ça, c'est... Là, tu as une bonne religion parce que ta relation avec le Seigneur est telle que l'amour de Dieu va passer à travers toi, il va se traduire par des actes. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je vais te montrer la foi avec les œuvres. Ceux qui prétendent être chrétiens et qui ne se conduisent en rien comme chrétiens, ou de temps en temps faire des bonnes œuvres pour avoir leur bonne conscience, mais pas du tout pour les bonnes motivations. Rien à voir avec les œuvres préparées d'avance par Dieu. Donc, je vais quand même m'arrêter là-dedans, parce qu'on a, si je commence à vous parler de toutes les religions, mais toutes les religions sont polluées par des choses, par des mensonges monumentaux, y compris la religion chrétienne. Alors bien sûr, on peut parler de l'orthodoxie et de la religion catholique, qui alors est carrément culte aux morts, culte aux idoles, enfin des abominations sur le truc. Mais vous avez le libéralisme qui a infesté l'église protestante. Et alors là, on relativise tout le truc, bon non, alors là, c'est l'humanisme qui a pris la place. Le truc, et on relativise les péchés, les gens n'ont plus aucune crainte de Dieu. Mais dans nos églises évangéliques, les gens ont aussi, la crainte de Dieu a disparu, on s'est fait un Jésus copain, il n'y a plus de crainte de Dieu, et notre religion, elle est tout sauf propre. Donc la religion est le comble de l'occultisme. Tu veux rencontrer Dieu, tu sais que tu as besoin de Dieu. Tu sais que si tu ne rencontres pas Dieu, si tu ne rentres pas dans la grâce de Dieu, tu vas passer ton éternité en enfer. Mais moi, je te donne un bon moyen de rentrer dans les bonnes grâces de Dieu. Et il vous donne les pires moyens et les plus sournois qui soient. C'est-à-dire des religions d'œuvres. Toujours des religions d'œuvres. qu'on fasse des cultes morts, qu'on n'en fasse pas, des religions d'œuvres où l'homme peut se racheter lui-même. C'est-à-dire qu'on va nier le sacrifice de Jésus-Christ. On va crier l'œuvre, on va nier ou relativiser ou diminuer l'œuvre de Golgotha. Dans toutes les religions où il y a une reine du ciel qui rentre, mais elle est aussi rentrée dans le protestantisme, mais elle rentre aussi dans les églises évangéliques, hein, parce qu'elle n'a pas forcément la forme de Marie. Le New Age est également sur le truc de la reine du ciel. On va relativiser ce qui est Jésus et commencer à mettre au-dessus de Jésus soit une grande mère et puis lui il est... Mais même le simple fait d'avoir un Jésus qui est gentil, qui est un copain, on diminue Jésus, c'est plus le Jésus de la Bible. Ce n'est plus le Jésus de la Bible. Et on est déjà dans l'occultisme. Donc je vous dis ça simplement pour... Je veux dire que c'est un sujet, à lui seul, je crois que je pourrais passer 8 jours tellement il y a de choses à dire. Enfin, il y aura d'autres choses qui vont être développées. C'est des sujets très très vastes. Je fais des enseignements qui sont longs. Je suis désolé, mais c'est des sujets tellement vastes. Et nous devons bien connaître ces choses parce que les gens sont liés. Dès qu'ils ont touché à l'occultisme, ils sont liés. Quand on veut libérer les gens qui viennent du catholicisme, de l'orthodoxie, mais même de beaucoup d'églises, on a besoin de les délivrer. Ne parlons pas de ceux qui sont allés voir des voyants, des astrologues, de ceux qui ont cru à leur truc, de ceux qui ont été baptisés catholiques, de ceux... Toutes les horreurs et les abominations qu'on a pu faire, ce sont des abominations. Et il n'y a qu'un seul moyen d'en sortir, premièrement, se repentir. Ce qui veut dire y renoncer. Et le voir pour ce que c'est. Une très grave offense à Dieu. Parce qu'on va chercher dans le camp du diable ce que Dieu nous donne gratuitement et par amour, pour lequel il a accompli un sacrifice parfait. La deuxième chose, c'est de le confesser. Devant Dieu, on ne peut rien cacher. Et la troisième chose, c'est d'en être délivré. Je vais proposer cet après-midi quelque chose. On a peu de temps. Il faut qu'on puisse que j'aille préparer pour ce soir. J'ai déjà plus de voix. J'ai plus, après un coup de Mistral là hier, j'ai plus de voix. Merci Seigneur, vous priez pour ma voix là pour que ça tienne jusqu'à la fin de la semaine. Il y a l'ennemi. Qu'est-ce que tu as dit? Que si on ne parlait pas, les pierres crieraient. Bon. Moi je veux continuer à parler. Ce qu'on va faire cet après-midi, on va prendre le temps. Vous allez commencer à apprendre à combattre vous-même. Amen. Parce que si vous ne savez pas déjà combattre pour vous-même, vous savez à quoi vous avez touché. Si vous avez été baptisé catholique, déjà il faut demander pardon à Dieu. Vous pouvez déjà commencer par demander. Vous avez été bébé, ne vous inquiétez pas, vous pouvez demander pardon pour ce que vos parents ont fait. Si vous avez baptisé vos enfants catholiques, vous pouvez le faire. Si vous avez touché à l'astrologie, si vous êtes allé voir des voyants, si vous avez parlé à des morts, vous avez commencé à demander pardon à Dieu. On prend un temps de repentance. On confesse à Dieu. D'accord ? Et après, on va commencer à briser et à chasser. C'est le Saint-Esprit qui fait, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Moi, pendant cela, je vais me mettre à l'écoute. Je vais demander aussi à un certain nombre de personnes de le faire. On va voir ce qui se passe dans la salle. Et en fonction de ce que Dieu fera, on va être disponible. Tout simplement pour que vous puissiez. Ben, on va voir ce que Dieu fait. J'ai parlé plus longtemps, mais on a encore commencé en retard. Et je suis désolée, mais il faut qu'on commence vraiment à l'heure. Il y en a beaucoup qui sont arrivés en retard. Vous comprenez bien que si on ne commence pas à l'heure, c'est sur le banc du ministère que c'est mangé. Je sais que mes enseignements durent minimum 2 heures. D'accord ? Et j'ai beau restreindre, c'est tellement...